Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux liens qui existent entre notre alimentation, l'environnement et le développement de maladies en adoptant une perspective historique et médicale. En effet, les impacts sur la santé et sur l'environnement s'entretiennent, même s'ils sont souvent considérés comme deux choses distinctes. On le voit avec l'évolution de l'espérance de vie. Alors qu'on entend souvent qu'elle progresse, les indicateurs de santé montrent en réalité qu'elle n'augmente plus depuis 2010. Plusieurs facteurs peuvent être mis en cause, parmi lesquels une dégradation de la qualité de l'alimentation avec l'invasion de produits transformés et la pollution. Ces deux risques sont majeurs pour la santé humaine puisqu'environ 11,8 millions de personnes meurent d'hypertension artérielle par an dans le monde, 5 millions meurent d'obésité et la pollution est responsable d'environ un décès sur 6 en France. Le comble est qu'en plus de détruire notre santé et notre environnement par nos activités humaines, cela nous coûte beaucoup d'argent. Une étude du cabinet Asterès a montré que l'obésité coûte près de 11 milliards d'euros par an à la France. Alors quels sont les liens entre alimentation, environnement et santé ? Pourquoi a-t-on tant de mal aujourd'hui à réguler les produits industriels et limiter la pollution ? Sommes-nous en train de nous diriger tout droit vers le suicide de notre espèce ? C'est en tout cas la vision de Jean-David Zetoun que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Jean-David est docteur en médecine spécialisé en hépato-gastro-entérologie. Il a été interne et chef de clinique à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il est également diplômé de Sciences Po Paris et docteur en épidémiologie clinique. Il a cofondé Inato en 2015, une start-up spécialisée dans les études cliniques et le recrutement de patients. Il a aussi écrit deux livres, La grande extension, Histoire de la santé humaine, et Le suicide de l'espèce, comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Nous allons profiter de son expertise en médecine, en histoire et en épidémiologie pour décrypter tout cela. Bonjour Jean-David.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Est-ce que tu peux déjà te présenter, s'il te plaît ?
Bah, vous l'avez déjà fait, j'ai pas grand chose à rajouter, mais oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis médecin, je travaille, donc j'ai une activité clinique, et en plus de ça, j'ai essayé de voir les choses un peu autrement, donc d'où l'épidémiologie, puisque l'épidémiologie, ça n'est pas la science des épidémies, c'est la science de la santé des populations. Et après, j'ai écrit deux livres sur la santé des populations. Un qui est historique et qui essaye d'expliquer quelle a été, non pas l'histoire de la santé, mais l'histoire de l'amélioration de la santé. Et un autre qui est un livre sur l'état contemporain qui montre qu'on a une production de maladies qui a un impact très important sur la santé de la population mondiale, pays riches, pays pauvres, tout le monde est concerné. Voilà, là, je travaille sur le troisième qui est un peu autre chose.
C'est quoi ?
Je le dirai plus tard.
D'accord. Comment t'en es venu, tu vois, entre devenir médecin, écrire deux livres et parler publiquement de ces sujets-là ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ?
Il n'y a pas de plan, c'est quelque chose qui se fait d'opportunité en opportunité dans le bon sens du terme et de façon un peu spontanée, ou en tout cas, les idées viennent au fur et à mesure qu'on rencontre des gens et qu'on écrit des articles. Donc, je n'aurais pas un parcours à raconter qui serait quelque chose d'extraordinairement réfléchi, mais c'est plutôt quelque chose qui correspond à peu près à 10 ans de travail, mais qui s'est fait de façon assez spontanée à chaque étape.
Et qui s'est fait de façon spontanée en observant tes patients ?
Pas tant que ça, j'ai pas une histoire à raconter là-dessus en disant qu'en consultation j'ai vu des patients, ça m'a choqué, je me suis dit que c'était pas normal et j'allais m'intéresser à la cause du problème. C'est peut-être plus quelque chose où je me suis rendu compte que, en fait, la médecine, c'est quand même assez compliqué à pratiquer, ce qui fait que les études de médecine sont centrées sur la clinique et pas beaucoup sur la santé publique, même très peu sur la santé publique. Et je me suis rendu compte que j'avais une lacune là-dessus. Et plus, je me suis intéressé par moi-même. Et donc, j'ai fait un doctorat en épidémiologie, mais entre guillemets, comme si j'étais un candidat libre. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une carrière universitaire à faire. Je l'ai pas fait pour le besoin d'une carrière parce qu'on m'a dit que c'était obligatoire. J'ai fait le choix de faire ça, ce qui m'a pris 5 ans de travail. Et là, effectivement, j'ai découvert un continent de choses que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que c'était au moins aussi intéressant que mon métier de médecin.
Oui, parce que je te pose la question, parce que je trouve qu'en médecine, du côté des médecins, c'est rare de faire le lien clair entre alimentation et santé. On va en parler après.
On n'est pas très bien formé à ça, donc du coup, c'est pas évident. D'accord. Ensuite, ça a échappé à personne. Les médecins, ils ont plein de travail, donc ils n'ont pas le temps de tout faire.
Bien sûr.
Et après, on en reparlera peut-être au fur et à mesure de la conversation, mais la production de maladies, c'est quelque chose qui se joue en dehors du cabinet du médecin. Le médecin, c'est un atelier de réparation des problèmes. Évidemment qu'il a un rôle à jouer dans la prévention des problèmes, mais il ne peut pas changer la société. Or, c'est la société qui produit les maladies, en dehors de l'évolution naturelle des maladies qui a toujours existé et qui existera toujours. Mais concernant la production anthropique des maladies, le médecin ne peut pas tout faire. Et donc, effectivement, il ne peut pas s'intéresser à toutes les cause de problèmes, de la même façon que le pédiatre ne peut pas s'intéresser complètement à l'éducation des enfants, et pourtant, ça le concerne.
On va rentrer du coup dans le cœur du sujet. D'abord, sur la vision historique, comme mentionné dans l'introduction, tu as écrit un livre sur l'histoire de la santé humaine. Quel constat on peut faire sur l'évolution de notre santé à travers le temps ?
Alors, il y a des périodes. Si on remonte très très loin, vous voulez qu'on remonte très très loin ?
Avec plaisir.
Ok, bon, alors la période des chasseurs-cueilleurs, donc quand les humains étaient des nomades et quand ils travaillaient 3 ou 4 heures par jour et qu'ils n'étaient pas organisés en village ou fixés en petite société, c'est une période où paradoxalement la santé était un peu moins mauvaise que pendant la période d'après. Et on pense que l'espérance de vie des chasseurs-cueilleurs était plutôt aux alentours de 40 ans. Ce qui est mauvais par rapport aux standards actuels, mais ce qui est moins mauvais que les standards d'après. Quand il y a eu ce qu'on a appelé la transition néolithique, qui est quelque chose qui est vraiment arrivé, même si ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et ça ne s'est pas fait de façon nette, les gens ont commencé à vivre plus proches les uns des autres, en plus grands groupes. L'alimentation s'est dégradée. Ils ont plus pu se contaminer à partir de leurs déchets, puisqu'ils vivaient dans leurs déchets. Ils ont vécu aussi en proximité avec les animaux. Or, les virus viennent des animaux dans la majorité des cas. Et donc, tout ça pour dire que la santé s'est dégradée au moment de la transition néolithique, avec probablement une espérance de vie qui est passée vers de 40 à 25-30 ans. Donc, c'est un changement
radical.
Énorme. Voilà. Mathématiquement, c'est beaucoup. Et ça a duré pendant 10 000 ans. Donc, c'est depuis, entre la transition néolithique et le milieu du XVIIIe siècle, c'est pas une période, c'est des périodes successives très hétérogènes. Il y a eu l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, donc pas tout à fait homogène comme période. Il s'est passé plein de choses différentes. Et pourtant, il y a un truc qui n'a jamais changé, c'est l'espérance de vie, en tout cas des Occidentaux, puisque c'est celle qu'on connaît, qu'on est capable de quantifier à peu près rétrospectivement. Et là, on sait que ça a jamais dépassé durablement 30, voire 35 ans maximum. À partir du milieu du XVIIIe siècle, là, il y a un progrès. Et pendant 200 ans, schématiquement, là encore, c'est 200 ans qui ne sont pas homogènes. Et pourtant, la progression, elle, a été homogène. C'est-à-dire que le rythme de la progression de l'espérance de vie a été constant. On a gagné entre 2 et 3 mois d'espérance de vie par an. Et donc, on est passé de 30 ans à peu près d'espérance de vie à 60-65 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Cette amélioration-là s'est faite grâce à la santé publique, pas grâce à la médecine, qui n'a pas progressé sur le plan thérapeutique pendant 200 ans. Elle a progressé sur le plan diagnostique, mais c'était stérile puisqu'il n'y avait pas de traitement. Elle s'est faite grâce à la santé publique. Et on pense que ça s'est fait grâce à 4 causes principales qui sont l'assainissement, l'eau potable, l'alimentation et l'immunisation artificielle, c'est-à-dire les premières variolisations et surtout les premières vaccinations contre la variole.
Okay.
Enfin, la dernière période, qui est celle qu'on connaît un peu plus puisque nos parents sont nés à peu près à cette période-là, donc c'est à partir de 1950 ou 1945 si on veut, la progression a continué au même rythme. Et donc, on est passé de 65 ans d'espérance de vie à peu près dans les pays occidentaux à quelque chose qui est compris entre 78 et 88 ans au début du 21e siècle. Grâce à la médecine et la pharmacie. Donc la médecine et la pharmacie ont commencé à performer sur le plan statistique seulement à partir du milieu du XXe siècle.
Et pourquoi aujourd'hui on constate qu'en revanche cette espérance de vie stagne ? Est-ce que de toute façon on n'a pas atteint le maximum ?
Alors, c'est une question qui est, pour répondre à cette question, elle est ouverte et il y a plusieurs écoles avec des gens qui pensent qu'il n'y a pas de limite biologique. Et il y a des gens qui pensent qu'il y a une limite biologique et que de toute façon, on ne pourra pas progresser éternellement. Je pense qu'il y a une limite biologique parce que Jeanne Calment, c'est le record mondial. Et ça fait 30 ans quasiment qu'elle est morte. Et depuis Jeanne Calment, personne n'a vécu aussi vieux qu'elle, et surtout, personne ne s'en est même rapproché.
C'était quoi son âge, déjà ?
121, je crois. Et donc là les recordmen mondiaux ou woodmen mondiaux, c'est 110, 115, mais c'est très loin de Jeanne Calment. Donc je pense qu'il y a une limite biologique, et Jeanne Calment, c'était juste une anomalie, dans le bon sens pour elle. Ensuite, donc il y a une limite probablement. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on atteigne la limite, c'est que justement, on crée des maladies inutilement. La société produit des maladies, donc grâce aux risques, ou plutôt à cause des risques qu'elle produit. Alors, il y a les méchants classiques du XXe siècle, le tabac et l'alcool. Et puis, il y a les méchants du XXIe siècle, c'est, à mon avis, la pollution et l'alimentation, c'est-à-dire des risques qui sont massifs, en croissance, hors de contrôle.
Pourquoi tu vas jusqu'à nous parler de suicide de l'espèce ?
À partir du moment où vous avez une espèce qui produit les causes de sa maladie et de sa mortalité, virtuellement ou métaphoriquement, c'est un suicide. Évidemment, il n'est pas forcément intentionnel. D'ailleurs, le vrai suicide est en baisse dans le monde. Il y a plutôt un peu moins de gens. Le suicide réel ou direct a baissé de 20% en 20 ans. Donc, le suicide direct est plutôt en baisse. Mais le suicide indirect est plutôt en hausse, puisqu'il y a plus de maladies produites par les différents risques qui eux-mêmes sont le résultat d'une activité humaine.
Dans ce podcast, on va évidemment se concentrer sur l'alimentation, même si les questions de pollution et d'alimentation sont beaucoup liées. Quelles maladies dans l'histoire sont liées à l'alimentation ?
C'est le problème. La réponse est les maladies normales, les maladies courantes, les maladies qu'on connaît déjà, les maladies fréquentes. Il y a très peu de spécificités, à part l'obésité qui est un peu à part dans la liste des maladies. Mais les maladies qui sont causées par l'alimentation sont des maladies qu'on connaissait déjà et qui existaient déjà avant que l'alimentation ne devienne affreusement mauvaise, comme ça a commencé à peu près au début des années 70, et qui continueront d'exister même si elles s'amélioraient. Mais c'est leur type qui a changé. C'est-à-dire que c'est plutôt dans la vie, plus sévèrement, et puis de façon plus fréquente qu'avant, tout simplement.
Mais c'est quoi ces maladies?
Le diabète, les maladies cardiovasculaires, okay. Les cancers, les maladies mentales, certaines maladies auto-immunes. Voilà, des maladies qui ne frappent pas l'œil. C'est pas comme l'amiante, par exemple. L'amiante, l'avantage de l'amiante, même si l'amiante a été un énorme fléau, c'est que ça cause un cancer qui sinon n'existe pas. Donc on peut pas dire que c'est la malchance, ou c'est le hasard, ou que c'est la nature. Le mésothéliome, donc le cancer de la plèvre, c'est un truc qui n'existe pratiquement que à cause de l'amiante. Donc quand on en voit, on dit tiens, c'est étrange, et on raccorde ça à l'amiante de façon rapidement rétrospective. Quand quelqu'un fait un infarctus ou a tel ou tel cancer, on peut avoir un raisonnement statistique sur l'alimentation ou le risque alimentaire de la personne, mais on peut aussi ne pas y prêter attention. Et clairement, les dirigeants du monde n'ont pas prêté attention aux maladies causées par l'alimentation, c'est pour ça qu'ils ont laissé grossir le problème, c'est pas par complot ou par malveillance, c'est parce que c'est pas assez frappant.
Est-ce que c'est plus fréquent quand c'est des zoonoses ? Tu vois, je pense à tout le débat qu'il y a en matière de déforestation et qu'on a entendu au moment du Covid, qui est, en fait, si on déforeste, les animaux n'ont plus d'habitat et de fait, les maladies se transmettent peut-être plus aux hommes.
Ma réponse à ça, c'est que les leaders politiques ne sont pas mauvais pour gérer les chocs et qu'ils ne sont pas bons pour gérer les problèmes à croissance lente. Le changement climatique, c'est un problème, c'est une catastrophe au ralenti et ce n'est pas géré correctement. En tout cas, on ne peut pas dire que les dirigeants ne font rien, mais on peut dire qu'ils ne font pas assez. L'obésité et l'alimentation, c'est exactement la même chose. En revanche, quand il y a des chocs, donc le Covid a été un choc, franchement, je trouve qu'il n'y a pas trop de critiques à faire sur la gestion de la pandémie par les démocraties. Et puis, un autre exemple qui me vient à l'esprit, mais pour lequel je ne suis pas un expert, c'est les crises économiques. Quand il y a des crises économiques, maintenant, c'est assez rapidement bien pris en charge par les gouvernements, en tout cas dans les démocraties, il me semble, de telle sorte que ça ne cause pas de pertes massives et de dommages populationnels massifs. Parce que les chocs, ils savent plutôt bien le faire, à la fois techniquement et à la fois en termes d'énergie politique.
Mais tu vois, tout à l'heure, tu disais, à l'époque en tout cas, des chasseurs-cueilleurs, puis ensuite, l'étape suivante, l'essentiel des maladies venait des animaux. C'est plus le cas aujourd'hui ?
Non, la plupart des... 74% de la population meurt d'une maladie chronique en 2024. Ou en 2023, c'était le cas. Donc, entre 2024, ce sera aussi à peu près le cas. Les maladies microbiennes, c'est plutôt aux alentours de 17%. Et puis après, il reste un peu moins de 10% de gens pour mourir d'une mort violente, c'est-à-dire un suicide, un homicide, un accident.
Okay.
Donc, non, les maladies microbiennes... La plupart des microbes viennent encore des animaux, mais la plupart des humains ne meurent pas d'un microbe dans leur vie. Ils en attrapent, mais ils n'en meurent plus.
Ok, j'entends. On va parler maintenant de ce que c'est que cette alimentation. Tu nous as dit, depuis les années 70, en gros, notre alimentation s'est transformée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui ?
Aujourd'hui, elle est à 80 ou 90% souvent industrielle ou industrialisée, c'est-à-dire transformée. Alors, transformée, c'est pas binaire. Il y a des différents degrés de transformation. Le pain s'est transformé, les yaourts s'est transformé, ça ne pose pas de problème majeur pour la santé. Ce qui pose un problème majeur pour la santé, c'est l'ultra-transformation, donc l'excès de transformation, c'est-à-dire un aliment final qui ne ressemble plus du tout à la matière d'origine. Et donc, pour schématiser, il y a trois problèmes dans l'alimentation aujourd'hui. Il y a l'apport énergétique directement mathématique, donc les calories. Donc, quand elle est trop calorique, trop sucrée, c'est pas OK. Ensuite, il y a la transformation, ou plutôt l'ultra-transformation, qui rajoute un risque supplémentaire indépendant des calories ou en plus des calories. C'est-à-dire qu'à calories égales, il vaut mieux manger quelque chose de frais par rapport à quelque chose d'ultra-transformé. Et après, il y a un troisième problème qui, lui encore, est un problème dans le problème, qui est, à mon avis, les pesticides qui sont jetés sur les aliments à toutes les étapes de la transformation ou les produits chimiques. Et à la fin, on se retrouve avec une alimentation qui n'est plus bonne pour la santé. Ça a été une partie de la solution pendant les 200 ans dont j'ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de nos problèmes.
Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, quand même, ça a été vu comme la solution. Est-ce que ça a permis à un moment d'augmenter cette espérance de vie des humains?
Pendant les 200 années, on va dire du milieu du 18e au milieu du 20e, ça a été un contributeur important, bien sûr. Avant ça, les gens étaient insuffisamment nourris en moyenne.
Donc, les gens mouraient facilement de famine et on a...
Ou à cause partiellement de la dénutrition. Par exemple, quand ils attrapaient une infection, le fait qu'ils soient dénutris fait qu'ils ne survivaient pas à l'infection, alors qu'aujourd'hui, c'est moins le cas.
Ok. Nous, on a fait un podcast que je vous invite à écouter si ça vous intéresse sur les produits ultra transformés, sur comment on les détecte. Aujourd'hui, quel est ton point de vue là-dessus? Comment on identifie un produit ultra transformé? Quel est son impact concrètement sur notre santé?
D'abord, il faut se cultiver pour essayer de comprendre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ensuite, on est plus aidé qu'avant par le Nutri-Score, puisque le Nutri-Score que tout le monde connaît maintenant est un score qui évolue et qui évolue pour plus tenir compte de la transformation qu'avant. Le Nutri-Score a commencé à faire simple, et même faire simple, c'était compliqué pour eux. Et au fur et à mesure de leur succès mérité, ils ont commencé à essayer de sophistiquer la composition du score et à incorporer dans le score des critères de transformation pour que le Nutri-Score soit toujours plus fin et qu'il soit toujours plus prédictif, ou en tout cas que ce soit toujours meilleur
outil.
Donc
pour toi, c'est une bonne chose, le Nutri-Score?
C'est mieux que pas de Nutri-Score. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça résout tous les problèmes? Bien sûr que non. Mais c'est mieux que les gens sachent ce qu'ils mangent par rapport à ce qu'ils ne savent pas. Franchement, tous les gens qui vont critiquer le Nutri-Score, soit ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe, soit il y a une mauvaise foi armée par le fait qu'ils ont un intérêt industriel. Mais les industriels qui critiquent le Nutri-Score sont de mauvaise foi dans la quasi-totalité des cas.
Non, mais tu vois, l'Italie a fait...
Non, on peut pas. Franchement, je connais la position de l'Italie et c'est dommage.
Ok.
Le Nutri-Score n'est pas une critique de la gastronomie italienne. Le Nutri-Score dit que quand quelque chose est gras, on a le droit de le dire. Ou quand quelque chose est transformé, on a le droit de le dire. Mais la gastronomie italienne, c'est quelque chose qui est complètement respectable et qui est très important pour l'Italie. Après, critiquer des pizzas industrielles, c'est pas quelque chose qui va contre l'intérêt de l'Italie, à mon avis, au contraire.
Pour ceux que ça intéresse, la question du Nutri-Score est évoquée au niveau européen et l'Italie fait blocage pour que ça soit adopté au niveau européen.
Depuis que l'Italie a un gouvernement d'extrême droite.
Comment expliques-tu l'engouement pour ces produits au vu de leurs effets néfastes? Alors déjà, on n'a pas développé leurs effets néfastes concrètement. Comment?
Les maladies dont on a parlé tout à l'heure, le diabète, l'obésité.
Parce que ça joue sur notre microbiote, comment ça joue?
C'est atrocement compliqué et on ne sait pas tout, mais on commence à savoir depuis 10-15 ans que c'est mauvais. Il faut comprendre que c'est très difficile de faire de l'épidémiologie nutritionnelle, c'est-à-dire étudier les effets sur la santé d'une population de l'alimentation, pour plein de raisons, mais qui sont faciles à comprendre, qui sont principalement que il faut suivre une population importante en taille, sur une durée importante, parce qu'il faut laisser le temps aux maladies de se développer. Heureusement, ça se fait pas non plus en 3 semaines. Et que il faut recueillir des données extrêmement fines de prise alimentaire. Et en plus, il y a plein de facteurs confondants qui sont notre environnement, notre comportement, le fait que les gens fument, boivent, etc., etc. Donc, démêler les effets de l'alimentation dans un mix très complexe, c'est quelque chose qui, techniquement et statistiquement, est difficile. En France, on a la chance d'avoir une cohorte qui s'appelle Constance, qui fait ça, à mon avis, de façon... Enfin, il y a la cohorte Nutrinet qui, elle-même, est dans Constance. Tout ça pour dire qu'on a un groupe d'épidémiologistes qui travaillent très sérieusement là-dessus et qui ont publié parmi les meilleures études au monde sur le sujet, et y compris sur le sujet de l'alimentation. Et donc, ils ont publié depuis 10 ans 3-4 très grosses études qui montrent sans ambiguïté que les pesticides ou l'ultra-transformation sont associés à des surrisques de certains cancers, de certaines maladies cardiovasculaires ou d'obésité. Donc on le sait suffisamment. Il y a, ils feront toujours des nouvelles études, mais on n'a pas besoin de nouvelles études pour agir.
Et tu as parlé même tout à l'heure de santé mentale, ce qui paraît moins évident au premier abord.
On ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a des liens plausibles entre l'ultra-transformation et certains problèmes de santé mentale.
Et alors, comment tu expliques l'engouement pour ces produits et le fait qu'on ne régule pas ces produits aujourd'hui?
Les deux questions sont très différentes. L'engouement, c'est individuel. La régulation, c'est...
collectif.
Voilà. L'engouement... Alors, l'engouement, c'est... en tout cas, le fait qu'il soit acheté, c'est parce que c'est moins cher, dans la majorité des cas. C'est parce que c'est très marketé. C'est mis en valeur dans les supermarchés. Et il y a, pour les produits sucrés, quelque chose qui est addictif. Et après, il y a aussi le fait que dans le plaisir alimentaire, il y a des gens qui trouvent du plaisir parfois à manger ça. Il ne faut pas le nier. Et non seulement il ne faut pas le nier parce que c'est une réalité, mais il ne faut pas le nier parce qu'à chaque fois qu'on envisage un changement sur le marché alimentaire, il ne faut pas perdre de vue que l'alimentation doit aussi rester un plaisir. Donc
bien
ça
sûr.
Veut dire que si on décide de réprimer ces produits-là, il faut qu'on soit capable de les remplacer par d'autres produits qui apportent du plaisir. Donc l'addiction, le plaisir, le fait qu'il soit pas cher et que en plus il soit partout, ça fait beaucoup de raisons pour expliquer que ces produits marchent sur le plan commercial. Ensuite, pourquoi c'est pas régulé? Je pense qu'il y a plusieurs raisons là aussi. Il y en a une qui est à mon avis clairement liée au fait que beaucoup de leaders politiques sous-estiment la taille de l'impact et donc ne se rendent pas compte de à quel point c'est mauvais et ne se rendent pas compte de à quel point ils sont perdants économiquement.
Oui, c'est ça. Combien ça coûte, quoi?
Bien sûr. C'est-à-dire que c'est il n'y a pas un pays qui est gagnant à laisser les aliments ultra transformés proliférer sur son marché. Et pourtant, voilà. Et après, par rapport à d'autres industries toxiques qui ont été mieux traitées, par exemple le tabac, on n'est pas obligé de fumer pour vivre, mais on est obligé de manger pour vivre. Donc c'est probablement, ça a été probablement plus facile de s'en prendre à l'industrie du tabac qu'à l'industrie alimentaire. Et pourtant, même pour le tabac, ça a été très difficile. Il suffit de regarder l'histoire du tabac pour se rendre compte qu'en fait, ça a pris énormément de temps de faire très lentement baisser l'industrie du tabac. Donc, ce n'est pas étonnant, du point de vue théorique, que ce soit plus difficile de réprimer le marché des mauvais aliments, puisqu'il y a des dimensions supplémentaires importantes pour la société. Pour autant, il faudrait que ça finisse par se faire.
Parce qu'aujourd'hui, tu disais, c'est très marketé, mais j'ai l'impression que même du côté des enfants, même dans les cantines scolaires, aujourd'hui, il y a des produits ultra transformés.
Il y en a. Je ne connais pas bien les cantines. Je pense qu'il y a un vrai effort quand même.
D'accord.
Sur les cantines, mais que c'est probablement améliorable. En tout cas, oui, bien sûr qu'auprès des enfants, c'est marketé.
Okay.
Hors cantine, en tout cas, c'est évident.
Moi, il y a une question qui me perturbe, c'est celle des nourrissons. Les nourrissons sont nourris par millions avec du lait maternisé qui présente des marqueurs d'ultra-transformation. Est-ce qu'on a étudié l'impact sur la santé de ces nourrissons?
J'ai l'impression qu'il y a moins d'études et je ne connais pas très bien, pour être honnête.
Ok. Je voudrais qu'on parle des pesticides et de la pollution. C'est un exemple évidemment d'actualité avec la mise à l'arrêt du plan Ecophyto. Quel est ton point de vue sur les pesticides et de façon générale sur la crise agricole actuelle?
Alors, sur les pesticides sont mauvais pour la santé, les pesticides sont mauvais pour tous les gens qui y sont exposés, que ce soit les producteurs ou les consommateurs. Il n'y a pas trop de doutes scientifiquement là-dessus et il n'y a même pas de plan pour s'en passer. C'est un problème non résolu. Là encore, les pesticides sont responsables de maladies chroniques qui sont des maladies courantes. Alors, il y a des perturbations endocriniennes, donc c'est-à-dire des perturbations hormonales, mais il y a aussi probablement des cancers, de l'obésité, des problèmes de thyroïde. Donc, les pesticides sont producteurs de maladies dans des proportions très importantes.
Même s'ils ont aidé, eux aussi, à un moment, dans les 200 ans ?
Oui, bien sûr. Ils ont clairement permis de lutter contre les nuisibles et parfois contre le risque bactériologique de l'alimentation.
Okay.
Et en même temps, ils ont apporté d'autres problèmes. Ensuite, sur la crise agricole, c'est plus large que les pesticides, mais ça les comprend. C'est pas techniquement complètement facile. Je pense que, de façon générale, le système agricole, pas du tout les agriculteurs, mais le système agricole est un système dans lequel à peu près rien ne va. C'est-à-dire que les bons aliments sont beaucoup plus chers que les mauvais, beaucoup d'agriculteurs ne gagnent pas leur vie et sont eux-mêmes exposés aux pesticides. c'est un système où personne n'est content, donc ça veut dire que c'est un marché qui n'est pas bien organisé, je pense.
Ouais, ou peut-être quelques-uns quand même sont contents. Mais
c'est ça, mais ça justement, c'est quelque chose qu'on connaît. Quand il y a une minorité d'acteurs seulement qui capture le surplus au détriment de l'environnement et de la santé, ça veut dire que ça ne va pas.
Et c'est quoi pour toi la solution par rapport à ces pesticides?
Par rapport aux pesticides, ce que disent les gens, mais je dis ça avec plus de distance parce que je suis moins expert là-dedans, c'est que si on en utilise moins, le rendement peut baisser parfois. Ça déjà, c'est clair. Et que ça nécessite une transformation qui se fait sur le moyen terme. Pour faire en sorte que le rendement ne baisse pas trop ou ne soit pas trop incertain en utilisant moins de pesticides, ça veut dire qu'il faut changer de modèle. Et c'est changer de modèle à grande échelle, mais aussi changer le modèle des exploitations. Il y a des gens qui le font, donc c'est que c'est possible. Il faut qu'il y ait... S'il n'y a pas une impulsion politique pour changer le modèle, je pense que ce sera très difficile à faire.
Tu crois à ce changement de modèle?
Pour l'instant, non.
De façon générale, la question des pesticides, elle pose également la question de la pollution de notre assiette. Par quel polluant est contaminée notre alimentation, hormis ces pesticides?
Hormis des pesticides, il y a probablement des polluants qui passent dans l'assiette dans les processus de transformation.
Okay.
C'est-à-dire quand les industriels transforment l'alimentation, il y a du plastique, il y a plein d'autres substances, et à la fin, il en reste probablement dans l'assiette. Donc, il y en a beaucoup. Mais c'est un problème de la pollution, c'est qu'il n'y a pas un coupable. Donc, il n'y a pas un méchant que vous pouvez identifier, et donc on dit c'est lui et on va s'en prendre à lui. La pollution, c'est quelque chose qui est complètement diffus et qui est lié à des centaines ou à des milliers de polluants. Donc, ce n'est pas une histoire qui est facile à raconter quand on veut lutter contre la pollution. Le tabac, au moins, c'est la cigarette, il y a un symbole négatif. Et puis, on l'a un peu fait. Le tabac est en baisse dans le monde. Le tabagisme est en baisse dans le monde. La proportion d'une personne qui fume est en baisse. Grâce à des politiques qui marchent. Donc, on peut le faire. Et je pense qu'on va plutôt continuer à le faire. Pour l'alimentation, c'est en baisse. Donc, l'obésité est en décroissance dans zéro pays du monde. Et il n'y a pas de plan. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile.
Mais alors, quel est le lien entre pollution et obésité?
Il passe par la chimie, justement, et notamment par les perturbateurs endocriniens. La pollution et les polluants augmentent le risque d'obésité. Bien sûr, l'obésité dépend aussi des autres facteurs qui sont plus individuels, comme le comportement alimentaire des gens ou le manque d'activité physique. Mais ça dépend aussi de l'environnement. C'est pour ça que ça n'est pas seulement une maladie comportementale, mais aussi environnementale.
Je pensais aussi, en parlant de polluants, souvent on parle de la pollution au plomb, des poissons, de ce qu'on a trouvé. Quelle part ça a, ça, dans la pollution aujourd'hui?
C'est la même remarque que ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'est très difficile de faire de l'épidémiologie nutritionnelle. Faire de l'épidémiologie environnementale, c'est pas beaucoup plus facile parce qu'on est tellement exposé toute la journée à des milliers de facteurs et que c'est très difficile de démêler les effets de chacun.
Ouais.
Donc la pollution au plomb joue encore un rôle dans le monde, mais on parle surtout de la pollution au plomb classique, c'est-à-dire celle qui a existé jusqu'aux années 70, avant qu'on plombe le monde, c'est par la peinture et par le carburant, mais il y a quand même du plomb, il y a quand même des centaines de milliers, voire selon certaines estimations, des millions de personnes dont la santé est nettement aggravée par la pollution au plomb dans le monde, plus la pollution non classique. Alors pour moi, pour les poissons, c'était surtout le mercure, mais je crois qu'il y a du plomb aussi, qui se fait parce que le monde est trop pollué de façon générale et qu'au bout d'un moment, ça revient vers nous.
Et alors, tu nous as parlé de l'impact de la pollution sur l'obésité. Ça, il me semble aussi un impact sur notre intellect et sur notre baisse potentielle de QI.
Oui, ça a été évoqué pour... Déjà, il y a les troubles du développement qui sont liés à la pollution chimique. Et donc ça fait baisser le QI des gens qui ont des troubles du développement.
C'est quoi un trouble du développement?
C'est l'autisme et l'hyperactivité, typiquement.
D'accord.
Dont l'augmentation dépasse de très loin l'augmentation de la population elle-même. C'est-à-dire qu'il y a plus d'autisme et plus de troubles hyperactifs aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et on est pratiquement certain que cette augmentation réelle, qui est quasi un doublement statistique, est liée à la pollution et en particulier à la pollution chimique.
Et ça, on arrive à faire des liens entre, je ne sais pas, la mère qui a été exposée à un pesticide et le développement de l'autisme de son enfant, ou c'est vraiment...
On arrive à faire un lien à l'échelle populationnelle.
Okay.
À l'échelle individuelle, c'est beaucoup plus difficile parce que la maman, elle ne se souvient pas de tout ce qu'elle a fait. Et parfois, ce n'est pas lié à la maman, mais à la maman de la maman.
Ouais.
Donc, il faut remonter loin et on ne le fait pas. mais on sait que ces maladies augmentent à cause de ces causes-là.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça ? Comment on peut lutter contre la pollution et son impact sur notre santé ?
Je pense que la réponse, elle est qu'on a déjà réussi à faire baisser certains risques. Donc, j'avais parlé du tabac tout à l'heure, ou du plomb.
Ouais.
Et qu'à chaque fois, ces risques ont baissé parce qu'on a combiné deux types d'approches qui étaient la régulation et l'économie. Enfin, la loi et l'économie. Donc, la loi, c'est-à-dire la régulation, et l'économie, c'est-à-dire la taxe ou la détaxe. À chaque fois qu'on a essayé de faire baisser un risque, en demandant aux individus de ne pas s'y exposer ou de ne pas le consommer, ça n'a pas marché. C'est ce qu'on a fait pour l'alimentation. Si on ne s'en prend pas à l'offre de risque, par la loi et par l'économie, les risques qui nous posent problème aujourd'hui vont continuer à nous poser problème dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, pour la pollution, y compris la chimie, ou pour l'alimentation, s'il n'y a pas des interventions légales ou des interventions économiques, je pense qu'on va continuer à avoir ces problèmes avec cette intensité 10 ans ou 20 ans plus tard qu'aujourd'hui.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire légalement interdire certains produits,
ouais,
et économiquement les taxer ?
Oui, bien sûr.
Ok.
Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on fait pour le tabac et ça choque plus personne, alors qu'il y a 30 ans, quand on a commencé à le faire, on disait que c'était liberticide.
Et tu interdirais quel produit ?
Bah, je pense qu'il faut que les produits dont ils sont avérés qu'ils sont mauvais pour la santé ne soient pas autorisés. Vous n'achèteriez jamais un médicament qui aurait été aussi peu testé que les produits chimiques que vous mangez tous les jours. Donc les médicaments sont méticuleusement testés. Il y a des essais cliniques avec des milliers de personnes et des milliards de données qui sont collectées pour ces milliers de personnes pour mesurer très précisément les effets positifs et négatifs des médicaments et pour accepter que les médicaments soient mis sur le marché sur la base d'une comparaison entre les risques et les avantages. Bah, ça n'est pas fait pour l'alimentation, pour les produits chimiques associés à l'alimentation ou non associés à l'alimentation, puisque la pollution chimique n'est pas que dans l'alimentation, elle est partout. Donc c'est un décalage qui n'est pas explicable intellectuellement.
Il y a les effets cocktails aussi, parce que une substance peut ne pas être nocive, mais combinée à d'autres devient nocive.
Tout le problème, c'est très difficile, mais pour autant, il faut tendre vers ça. Si on ne tend pas vers une régulation décente de la chimie en général, il y aura toujours plus de polluants chimiques dans notre environnement et dans notre alimentation, et le problème ne se résoudra jamais, il ne s'atténuera même pas.
Est-ce que tu sais aujourd'hui comment une molécule arrive sur le marché d'un point de vue chimique ?
Ça dépend. Il y a différents types de régulation, mais pour la plupart des produits chimiques, il y a peu ou pas de testing quant aux effets sur la santé. Non. Voilà. Donc, il y a plein de produits chimiques qui sont dans les objets du quotidien, dans les cosmétiques, les produits ménagers, les jouets, les dispositifs médicaux, les produits de nettoyage, qui sont peu ou pas testés.
Du type le téflon qui, pendant des années...
Alors, c'est un très bon exemple, je pense. Donc, ce qu'on appelle les PFAS, que le monde a appelé les polluants éternels, pendant longtemps n'ont pas été testés. Et on s'est rendu compte de leurs effets extraordinairement mauvais pour la santé des dizaines d'années après leur diffusion ubiquitaire. Et aujourd'hui, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils ont été interdits dans certaines substances, mais ils sont partout quand même, parce que c'est un héritage du XXe siècle.
Et qui sont, comme tu dis, éternels, quoi.
En tout cas, ils sont là pour très longtemps.
Comment se nourrir, du coup, aujourd'hui, pour espérer être en bonne santé et vivre plus longtemps possible ?
Je pense que c'est complexe, mais il y a quand même des messages simples qu'on peut retenir, qui est que l'alimentation fraîche est toujours meilleure en moyenne que l'alimentation industrielle ou ultra-transformée, qu'une alimentation végétale est tendanciellement meilleure qu'une alimentation qui contient trop d'animaux, et encore plus si la viande est grasse et qu'elle a été transformée, que le bio, dans la mesure du possible, c'est-à-dire du portefeuille, est moins chargé en produits chimiques et tendanciellement c'est meilleur, que le seul régime quasiment qui a prouvé une amélioration de la santé dans des essais de bonne qualité, c'est le régime méditerranéen, qu'on est très bon pour savoir ce qui est très mauvais pour la santé, mais on est moins bon pour savoir ce qui est bon pour la santé. Voilà quelques messages.
Qu'est-ce qui explique, j'ai l'impression que les femmes vivent quand même plus longtemps que les hommes, est-ce que c'est parce qu'elles se nourrissent mieux ?
Entre autres, c'est un fait du XXe siècle. Avant le XXe siècle, ce n'était pas le cas. Elles vivaient aussi longtemps ou moins longtemps. Et il y a pas mal de facteurs qui ont permis aux femmes de vivre plus longtemps que les hommes dans probablement tous les pays du monde à partir du XXe siècle. Déjà, il y a le fait que, comme la mortalité infantile a baissé, elles ont arrêter d'être obligées de faire beaucoup d'enfants pour qu'à la fin, il y en ait deux qui survivent. Avant, elles étaient obligées de faire beaucoup d'enfants parce qu'elles prédisaient qu'il y en allait avoir la moitié, entre un tiers et la moitié qui mourraient. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, elles peuvent se contenter de faire exactement le nombre d'enfants qu'elles veulent au départ pour avoir le même nombre d'enfants à la fin. Et quand une femme fait 4 ou 5 enfants dans sa vie, elle expose sa santé. Et donc, les femmes qui font beaucoup d'enfants sont en moyenne en moins bonne santé que les femmes qui en font un peu moins.
Ok. Aujourd'hui, les conséquences sanitaires des maladies, comme acheter des médicaments à l'échelle médecin, sont intégrées au calcul du PIB et donc à la croissance économique. Dans ces conditions, est-ce que c'est réaliste d'imaginer que les gouvernements acceptent de changer de modèle et de lutter contre ces problèmes sanitaires et environnementaux ?
Si la question, c'est est-ce que le PIB est un problème de vision de ce que doit être une économie ? Je pense que oui, mais c'est très large comme problème et c'est très difficile à retourner comme mentalité. Ensuite, effectivement, le problème des industries dont on parle, c'est que pour toutes, elles sont considérées comme de la création de richesse puisqu'elles ont une activité commerciale, donc elles sont intégrées dans le PIB. À la limite, c'est pas seulement le problème qu'elles soient intégrées dans le PIB. Le problème, c'est que n'est pas intégrée dans le PIB tout ce qu'elles font perdre. et le fait que les industries soient toxiques et que elles empêchent les gens de justement d'être travaillés ou alors parfois d'avoir une activité non économique, donc non productive, mais bonne quand même pour la société. Bah ça, c'est pas intégré, donc on le voit pas. Donc on voit que telle industrie va avoir un PIB et on se dit que on ne peut pas se permettre de s'en prendre à cette industrie, mais je pense que c'est une erreur de vision pour ces raisons-là. Il y a un dernier point qui est important, c'est que si ces industries étaient régulées ou taxées correctement, elles n'arrêteraient pas de vivre. Elles continueraient à exercer leur activité, mais elles le feraient d'une façon qui serait moins toxique ou non toxique pour la société. On aura toujours besoin d'une industrie alimentaire. Ce qu'on veut juste, c'est que les industriels de l'alimentation mettent en vente des produits qui soient bons ou neutres pour la santé. Et ça, si on ne les pousse pas très fort à le faire, il y a peu de chances qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Ou en tout cas, pas à des prix qui seraient abordables pour tout le monde. Donc, je pense que c'est une énième erreur de voir la régulation et la taxation comme quelque chose qui pénaliserait ces industries. Je pense qu'elles s'adapteraient et qu'elle continuerait d'avoir une activité intégrée dans le PIB, je ne m'inquiéterais pas pour ça.
Mais l'industrie de la chimie, tu crois qu'elle survivrait à une taxation massive ?
Je ne sais pas, mais je pense que de toute façon, elle fait tellement... Enfin, les produits chimiques sont tellement mauvais pour la santé qu'il faut que cette industrie évolue pour mieux tester ses produits. Je vais répondre de façon décalée. L'industrie pharmaceutique n'a pas arrêté d'être profitable le jour où on lui a demandé de faire des essais cliniques très chers pour les médicaments. Voilà. C'est 62, la date. Donc, en 62, il y a le scandale.
Avant, ils ne faisaient pas ça.
Ils ne faisaient pas d'essais cliniques.
C'est vrai ?
Oui, quasiment
Incroyable.
Pas.
Incroyable. Okay.
Quasiment pas. Et en 62, il y a eu un scandale qui s'appelle la thalidomide. C'est un médicament qui avait été autorisé et qui créait des malformations ou des morts fœtales. Les États-Unis n'ont pas autorisé ce médicament parce qu'il y a une pharmacologue canadienne qui venait d'arriver à la FDA qui trouvait que le dossier était nul. Mais ils ont vu que ça a été catastrophique dans les pays où ça avait été autorisé. Et Kennedy, à ce moment-là, a trouvé le momentum politique pour imposer une loi aux industriels pour, en quelque sorte, les obliger à faire des essais cliniques. Bon, les industriels ont un peu râlé, comme tout industriel à qui on demande quelque chose de nouveau, mais ils ont fait des essais cliniques pour leurs médicaments. Et aujourd'hui, il n'y a pas un industriel de la pharmacie qui trouve que ce n'est pas bien. Donc, et les industriels, enfin les laboratoires pharmaceutiques continuent à être des entreprises qui sont très rentables et plutôt tant mieux pour eux et aussi pour la société, puisque ça veut dire qu'il y a des investissements qui vont vers l'innovation thérapeutique, etc. Moi, ça ne me pose pas de problème, en tout cas.
Okay.
Donc voilà, donc le fait d'imposer un cadre rigoureux à une industrie, ça ne veut pas dire tuer cette industrie, je pense même souvent au contraire.
Quel est ton modèle de société idéal pour limiter les risques sanitaires et environnementaux ?
Honnêtement, j'en ai pas forcément parce que j'y ai pas pensé, parce que je considère pas être un expert de ça. Mais je pense que ce vers quoi il faut tendre, c'est une réduction des risques. Aujourd'hui, il y a trop de risques dans le monde. Voilà, il y en a trop. Et c'est des risques qui sont pas utiles. C'est même pas des risques qui rendent heureux. C'est pas des risques qui sont bons pour l'économie. À une autre période de l'Europe, il y avait un compromis entre les risques et l'économie. C'est-à-dire qu'il fallait accepter un certain degré de pollution parce que ça correspondait au développement économique, c'est-à-dire pendant la première révolution industrielle, par exemple. Et donc, à ce moment-là, probablement que si on avait fait un calcul, on aurait dit, bah oui, la révolution industrielle crée de la pollution, mais d'un autre côté, elle améliore tellement le standard de vie qu'il faut peut-être l'accepter parce que si on ne fait pas cette étape-là, on ne progressera jamais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça que je parle de risque inutile. C'est un risque qui, en fait, apporte quelque chose à l'industrie qu'il produit, mais n'apporte rien au reste de la société. Mmh. Donc, j'ai pas de modèle du bonheur, mais je pense qu'on pourrait vivre clairement mieux avec moins de risques.
On en arrive à la conclusion de ce podcast. Je vais devoir te demander sur quoi est ton troisième livre.
Ok, sur les causes de la violence.
Quelle violence ?
La violence normale, c'est-à-dire la violence physique, personnelle, banale, la violence de tous les jours. Oui. Pas les guerres, pas le terrorisme, pas la violence morale. La violence normale qui est un truc qui fait, donc je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, à peu près 8% de la mortalité mondiale, donc 5 millions de morts par an. Et il n'y a pas assez de science de la violence. Je pense que c'est quelque chose qui est abordé de façon un peu idéologique ou avec des préjugés, alors que c'est quelque chose qui tue beaucoup et qui fait énormément de mal. Donc j'essaye d'apporter une approche factuelle et scientifique à un problème qui n'est pas exactement un problème de santé, mais qui peut être traité comme un problème de santé si on veut essayer d'identifier les causes et de faire baisser la violence.
Donc par le prisme de la mortalité et de la...
Par le prisme de l'impact sur la santé, c'est important, et par le prisme des études sur les causes de la violence. Il y a des causes de la violence.
Qui sont Petit spoiler.
Par exemple, le climat est associé à des variations de violence. Donc, pendant les pics de température, il y a des pics de violence. Ensuite, l'alcool, évidemment. L'alcool, c'est le champion de la violence grave. Dans toutes les causes de violence, il y a l'alcool. Les accidents, les suicides, les homicides. Donc, si on arrêtait l'alcool dans le monde, non seulement on s'épargnerait pas mal de cancers et de maladies du foie, mais en plus, on aurait 20 ou 30% des morts violents qui disparaîtraient. Il y a la pollution au plomb.
OK.
Parce que c'est neurotoxique et qui augmente la criminalité avec 18 ou 19 ans de décalage, le temps que les individus maturent leur pollution et qu'ils arrivent en âge d'être violents. Donc, il y a des causes de la violence et puis il y a des causes culturelles et expérientielles. Donc, le livre étudie ça.
On sera ravis de t'inviter pour que tu nous expliques tout ça une nouvelle fois. Est-ce que tu as un conseil de lecture, de film, d'article sur notre sujet ?
Lequel exactement ?
Pas celui de la violence, qui est celui des liens entre la santé et l'alimentation.
Vous pouvez lire le livre de Serge Herkberg, qui est un des concepteurs du Nutri-Score, qui s'appelle « Tais-toi et mange » ou « Mange et tais-toi ». C'est un livre militant, mais honnête. Et après, en anglais, il y a un livre de Robert Lustig sur la transformation alimentaire qui s'appelle « Metabolical ». Donc, c'est un livre non traduit, qui est la fusion de métabolique et diabolique, qui moi, m'a beaucoup servi pour mieux comprendre ce truc-là.
Merci beaucoup, Jean-David.
Merci pour l'invitation.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Écotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.